Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 21 octobre. Petite journée sombre, pluvieuse.
Plutôt pluvieuse, Michel, oui.
Oui, Yann Chiasson, ça va bien?
Ah, oh, très, très bien, merci.
Bien, j'ai oublié mon parapluie ce matin. Petite erreur, hein? Alors, on vous parle comme notre habitude de voyage, de nature, de science.
Mm-hmm.
Alors, Anne, de quoi sera-t-il question?
Bien, un petit peu en avance, il va être question de spectres et de châteaux en Écosse.
On est tout près,
c'est la semaine prochaine.
Oui.
Ensuite, je vais vous parler d'un sujet écologique, la disparition du jaguar et ce qui en est de son impact écologique. Et je vais finalement vous parler d'un projet tout particulier qui est un projet d'horticulture sociale. On n'associe pas nécessairement les deux, mais dans cet article-ci, oui, vous allez voir comment.
De mon côté, je vais parler de l'intelligence des oiseaux.
Ah.
Vous allez voir, on a des exemples et c'est assez étonnant.
On a peut-être même des préjugés, Michel.
Ah, on a des préjugés, tout à fait. Et les animaux de compagnie, savez-vous que nos animaux de compagnie vieillissent?
Bien sûr.
Alors, ils suivent à peu près, vous allez voir, à peu près le même processus que l'être humain. Et puis, moi, je vais vous faire un petit tour de ville de Nantes. Quand même fort intéressante.
Sûrement.
Alors, l'intelligence des oiseaux, c'est par Kate Luneau, et c'est une adaptation française, et c'est tiré de l'actualité de septembre 2014. Dans le cadre d'une étude qui a été publiée dans une revue scientifique, des chercheurs ont observé des corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui jetaient des cailloux dans l'eau pour en faire monter le niveau, pour étancher leur soif. Et plus étonnant encore, devant le choix qui leur était offert, les corbeaux ont préféré des objets plus lourds que des objets légers, ce qui a fait remonter, tandis que les objets légers auraient flotté à la surface. Donc, leur aptitude à accomplir ces tâches, on nous dit que ça rivalise avec les capacités d'un enfant entre 5 et 7 ans.
Ah, mais quand même!
Quand même étonnant, hein? En Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel du Pacifique Sud, un chercheur a suivi les corbeaux régulièrement. Ces oiseaux, de la famille des corvidés, par exemple les pies et les geais aussi sont de la même famille. Et ça compte parmi les animaux les plus intelligents du monde. Comme les chimpanzés, des orangs-outans, des corbeaux de Nouvelle-Calédonie fabriquent et utilisent des outils. Ils sont cependant la seule espèce avec l'homme, connu pour créer des outils en forme de crochet et qu'ils utilisent pour attraper, vous vous en doutez, hein, des insectes, des asticots qui vont se trouver au creux des arbres. Et c'est fascinant de trouver un corbeau maîtrisant un niveau technique qui, en principe, il ne devrait pas posséder. Étudier ces oiseaux devrait mettre en lumière comment et pourquoi l'intelligence évolue. Et c'est la principale raison des études. Jusqu'à tout récemment, des scientifiques croyaient que le cerveau de l'oiseau était plutôt primitif. Mais ils découvrent maintenant, chez certaines espèces, une intelligence étonnante, saisissante, qui rivalise avec celle des dauphins, des éléphants et même de nos plus proches cousins, des grands singes. Les perroquets bougent en suivant un rythme, sauf ce que des chimpanzés, on nous dit même que des chiens, ne peuvent pas faire. Un chercheur étudie comment le cerveau génère des comportements complexes, y compris le langage et la capacité d'imiter les sons que possèdent certains oiseaux. Bien sûr, on connaît les perroquets à cet effet-là, mais les corvidés peuvent aussi. Et je l'ai déjà constaté. Ils peuvent parler, absolument. Okay. Il existe une corrélation entre la taille du cerveau et l'intelligence. Si les corvidés, les corbeaux, et les perroquets ont fait l'objet de la majorité des recherches, c'est principalement en raison de leur cerveau relativement gros. Les scientifiques n'étudient généralement pas les espèces qui ont un petit cerveau. Une méthode d'évaluation de l'intelligence des oiseaux a été mise au point par Louis Lefebvre. La raison pour laquelle je mentionne son nom, c'est que c'est un professeur de biologie à l'Université McGill, qui a passé de nombreux rapports d'ornithologues au peigne fin pour repérer les occurrences, les répétitions des comportements nouveaux. Chez les humains, l'intelligence est notamment caractérisée par, on l'espère, la capacité de trouver de nouvelles solutions aux problèmes. Son inventaire répertorie environ 2600 innovations chez 900 espèces d'oiseaux. Donc, c'est considérable. L'un des phénomènes les plus spectaculaires a été filmé en Israël. Dans cette vidéo, un corbeau tenant un morceau de pain se perche sur une fontaine. Ça ressemble à une forme de la fontaine.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
après en avoir trempé une partie, il la mange, puis laisse le reste flotter à la surface.
Ah, pourquoi?
Il attend quelques secondes plus tard, il saisit un poisson qui a été piégé par le pain qui a servi d'appât.
Le corbeau va à la pêche.
C'est brillant, hein? Et de nombreux oiseaux vont trouver des façons innovantes d'assurer leur prochain repas. En 2009, un doctorant, un étudiant au doctorat en Corée du Sud, travaillait une étude des pics sur le campus, escaladant les arbres jusqu'au nid pour mesurer les oiseaux et prélever des échantillons. Au fil du temps, il commença à soupçonner que les oiseaux le suivaient et tentaient de le faire fuir avec leurs cris. Un peu comme dans le Hitchcock, les oiseaux, si on veut. Et le jeune chercheur s'est alors déguisé pour éviter d'être reconnu, mais sans succès. Les oiseaux continuaient de le harceler tout en laissant ses collaborateurs tranquilles. Ils le reconnaissaient. Alors, une autre étude s'est intéressée à des corbeaux américains attrapés et relâchés. À plusieurs reprises, par des humains portant un masque distinctif. Pendant près de 3 ans après leur première capture, les corbeaux ont manifesté de l'hostilité envers toute personne qui avait ce masque-là. Autre exemple, observé dans le cadre d'une étude fascinante, les jets des chaînes mâles sélectionnaient la nourriture à donner à leur compagne pendant la saison des amours. Ils regardaient d'abord les femelles se gaver d'un aliment, puis choisissaient soit de leur offrir un nouveau, soit de leur en donner une plus grande quantité de ce qu'elles venaient de manger. Alors, les mâles semblaient tenir compte des goûts des femelles.
Mm-hmm.
C'est romantique, hein? Alors, les récentes découvertes ne sont que la pointe de l'iceberg pour ce qui est de la compréhension du potentiel des corvidés. S'ils peuvent fabriquer leurs propres outils, reconnaître les visages humains et déchiffrer les désirs de leurs congénères, de quoi d'autre sont-ils capables? Donc, quand vous dites à quelqu'un qui a une cervelle d'oiseau,
attention,
ouais, ils sont quand même très intelligents. C'était par Kate Luneau dans l'actualité de septembre 2014.
Eh bien, moi, je vous transporte, oui, en Écosse, avec un article de Raphaël Pic qui s'appelle « Spectro-château ». C'est dans Grand Reportage, septembre 2014. Quoi de neuf, vous demanderez-vous, du côté des fantômes? Avec le whisky et le rugby, c'est l'une des bases de la trilogie écossaise. En Écosse, les fantômes sont aussi vieux que les vieilles pierres qui les enferment. Fruit d'une histoire violente qui a laissé son cortège de ruines, lutte contre les Vikings, combats fratricides entre clans, résistance à l'avancée anglaise ou guerre de religion, dont firent les frais les cathédrales papistes. Au Moyen Âge, on nommait le double le corps astral. Et même encore récemment, on parle aussi du corps astral, peut-être dans un autre domaine, écrivait Gabriel Delanne en 1909 dans « Les apparitions matérialisées des vivants et des morts ». Et nous avons rappelé qu'en Écosse et en Allemagne, le phénomène des apparitions de vivants était assez fréquent. Walter Scott n'a fait que puiser dans ce répertoire inépuisable pour le mettre en scène. Ajoutez un plaid de tartan, une ctémore bien affûtée, des glens et des lochs, et le décor est campé pour toujours. Dans cette géographie du mythe, certains lieux sont plus évocateurs que d'autres. Je vais vous en nommer 6. Voici donc un petit itinéraire en forme de dictionnaire invoquant la pleine lune et de sinistres lambeaux de brume une semaine en avance, comme je vous disais tantôt, à cause de l'Halloween qui s'en vient. Le premier s'appelle Ardrec. Il est idéalement placé dans le miroir noir du Loch Assynt. Loch, savez-vous ce que ça veut dire, Michel?
Ben, c'est un lac,
c'est un lac.
C'est ça, Loch Ness, c'est bien connu. Hein?
Oui! Ça peut être un lac, mais ça peut être aussi un bras de mer, selon les recherches que j'ai faites. Donc, on parle de Ardrec. Quelques pierres branlantes ne rendent pas honneur à son importance historique. C'est ici que fut capturé en 1650 le brave Montrose, qui était descendu des Orcades avec son armée pour venger la mort de Charles Ier. Le deuxième s'appelle Cawdor. Il résonne encore de cliquetis des chaînes et le sang n'y est pas tout à fait sec, selon la légende. Depuis que Shakespeare a fait de Macbeth le Tan de Cawdor, Tan qui est un titre de noblesse, donc il a fait de Macbeth son héros le plus célèbre. Le troisième s'appelle Dunotar. Vigie décharnée sur la mer du Nord, il n'est jamais plus impressionnant que dans la tempête, avec le ricanement des mouettes en bande son. On imagine un peu, hein?
Oui.
Dans ces cachots, des Covenanters préfèrent, en 1685, perdre la vie plutôt que de renier leurs convictions. Et leur conviction est la suivante, jamais le roi ne serait leur autorité suprême. Ceux qui ne finirent pas dans l'estomac des requins en bas de la falaise tentèrent de se faire une nouvelle vie d'exilés scorbutiques au Nouveau Monde, un destin bien plus doux que celui des soldats anglais que William Wallace Braveheart fait rôtir vivant quelques siècles plus tôt. Il y en a trois autres dont je vais vous parler brièvement. Eileen Donen, depuis le film Highlander en 1989, sa fortune est faite. Ici, se sont étripés des Mackenzie, des McRae's et des Jacobites. Cette maison du 14e siècle présente en réalité le visage idéalisé que voulut bien lui donner le 20e siècle. Sa reconstruction date de 1912. Elles se mirent dans le loch trouble et toise, les montagnes enneigées. Jamais la sauvagerie dont est capable l'Écosse ne fut aussi bien mise en valeur. Et tous ces châteaux-là, c'est dans le nord de l'Écosse. J'ai regardé un petit peu. Le cinquième s'appelle Glamis. Pour les vrais amateurs de revenants, ce château de Lengus est un must. Les comtes de Strathmore, qui le possèdent depuis 400 ans, ont un sacré passif. Un de leurs ancêtres eut la mauvaise idée de vouloir jouer une partie de cartes le jour du Seigneur, donc le dimanche.
À ne pas faire.
À ne pas faire à ce moment-là, en tout cas. Le seul adversaire qui accepta le défi fut un voyageur qui frappa inopinément à la porte du donjon. Après avoir perdu tous ses biens dans ce duel homérique, le comte désespéré embrocha tout de go l'inconnu sur son épée. Depuis, le baron noir revient périodiquement battre les cartes. Et je vais vous parler maintenant de Tracaire, tout près de la frontière anglaise dans la région des Borders. Il prétend être la plus ancienne demeure habitée sans interruption dans le pays depuis le 11e siècle, quand même pas mal longtemps. Et ses seigneurs, partisans des Stuarts, n'ont jamais failli à leur engagement. Le portail des ours, fermé depuis la fuite de Bonnie Prince Charlie en 1746, c'est votre voisine palier, si je ne m'abuse, Michel.
Exactement, que je connais bien.
Bien sûr. Donc, ne s'ouvrira que lorsqu'un nouveau Stuart sera couronné. Certains entendent déjà grincer les gonds. Alors, ceux qui voudraient en savoir plus, il y a sur les châteaux en Écosse, il y a un site Internet qui est mentionné ici, où il y a 90 châteaux écossais qui sont réunis dans la Scottish Castles Association, qui est sur le site Internet suivant, www.scottishcastleassociation.com.
C'est toujours magnifique de voir les châteaux en Écosse.
Dans la
brume du matin.
Ah, en particulier, ou le soir, en fin de journée.
Ah oui, c'est vraiment extraordinaire, magnifique.
C'était donc dans Grand Reportage, septembre 2014, Spectres au château, un article de Raphaël Pic.
Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui dormait dans sa tombe et non sur un matelas? Du fond de son château, je sens sur moi son œil, quand je range mon violon dans son petit cercueil, dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine. semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Connaissez-vous l'étrange conte Dracula qui dormait dans sa tombe ou bien la tête en bas? Il se relève la nuit pour aller se nourrir et il ne sait pas se décrire. L'eau des miroirs ne lui renvoie pas son reflet. Il ignore s'il est beau, il ignore s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne, comme celui de l'ail, me reste dans la bouche. Je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires. De malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Dans les rues de la ville parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, se fourrant gratter à ma
Thomas Fersen avec Dracula qui faisait suite à nos articles dont je vous ai parlé. Alors, Michel, à vous.
Donc, aider nos compagnons à vieillir, Stéphanie Vallet nous en parle dans la presse du 4 octobre. Nos compagnons à quatre pattes vieillissent à nos côtés, mais ils le font beaucoup plus rapidement que nous. Le museau, la tête commence à se faire plus grisonnant, mais souvent, ils ont encore l'entrée d'antan. Et pourtant, c'est le moment d'agir pour le rassurer d'entrer confortablement dans le troisième âge. Mais oui, le troisième âge des... c'est pas des oiseaux cette fois-là, des bêtes à quatre pattes. En vieillissant, les animaux de compagnie deviennent plus fragiles, sont sujets à des défaillances plus fréquentes de leur organisme. La race, le poids, le mode de vie, la génétique aussi, et la qualité des soins prodigués à votre animal sont autant d'éléments qui déterminent sa longévité. On sait de manière générale que les chiens de petite taille, je pense aux Pékinois par exemple, des caniches miniatures surtout, entrent dans la catégorie senior vers l'âge de 9 ou 10 ans. Et alors que les moyennes et grandes races, je pense à berger allemand, labrador, ils le font vers 7 ans. C'est tout, hein? Senior à 7 ans. Ah. Et pour les races géantes danois, le Terre-Neuve, le vieillissement se fera vers 5 ou 6 ans. Et vous savez que l'éditoire, on dit multiplié par 7 l'âge d'un chien, ça n'a rien à voir. Hein?
Ben non, c'est pas ça, dans ce calcul-là.
Non, ça n'a aucune... C'est une invention, c'est un mythe, ça n'a rien à voir. Et ils deviennent alors des patients gériatriques. Et le processus de vieillissement, ben, il s'est enclenché. Et c'est à ce moment-là que des maladies liées au vieillissement peuvent apparaître. Chez le chat, la vieillesse s'installe progressivement vers l'âge de 8 à 10 ans. Et il n'existe que très peu de différence avec les symptômes qu'on retrouve chez le chien et même chez l'être humain. En entrant dans le troisième âge, nos compagnons sont sujets à l'arthrose, une perte d'entrain, des problèmes de vision et de surdité, ou encore l'apparition de kystes ou de verrues sur le corps.
Il me semble de voir des chats avec un appareil auditif. J'essaie juste d'imaginer.
Mais oui, c'est ça. Mais on voit que le parallèle avec les humains est extraordinaire. Des problèmes qui ne sont pas toujours faciles à détecter, mais auxquels il faut rester attentif. Ça peut prendre des mois avant qu'on s'en rende compte. Il est donc important de multiplier les visites chez le vétérinaire qui, lui, va pouvoir détecter. À partir de 7 ou 8 ans, de passer d'une seule visite à deux visites annuelles. L'animal ne va pas forcément nous montrer ses symptômes, surtout le chat. Souvent, il va avoir une maladie dégénérative et on va seulement s'en apercevoir au moment où le corps ne peut plus compenser. Il se traîne, autrement dit. Les traitements sont alors moins efficaces que si on avait entrepris des démarches dès le début du vieillissement. Tout comme nous, la vieillesse est synonyme de sédédité pour nos compagnons à quatre pattes. Curieux, hein? Oui, les animaux de compagnie peuvent devenir séniles. On appelle ça le syndrome de dysfonction cognitive.
Oh là là là! Il y a l'Alzheimer du...
C'est l'Alzheimer du chat ou du chien. Alors, tous les animaux ne se rendent pas là. Ben, c'est comme des humains, en fait. Le parallèle est très étroit. Les signes ressemblent beaucoup à ceux des humains. De plus en plus de recherches se penchent là-dessus. L'animal peut ainsi oublier de se retenir, se mettre à dormir n'importe quand, ou encore se mettre à fixer un mur à propos de rien, de façon déraisonnable. Un animal en moins de forme physique et plus mince va ressentir les effets du vieillissement beaucoup plus tard qu'un sujet obèse. L'exercice et la nutrition jouent ainsi un rôle clé dans le bon déroulement de l'entrée dans le troisième âge de votre chien ou de votre chat. Les nourritures gériatriques vont contenir des antioxydants qui vont aider au niveau du cerveau et de la bonne quantité de calories. La transition vers ce type de nutrition devra se faire de concert avec votre vétérinaire.
On parle de manger mou, mais dans leur cas, les chats, les chiens mangent déjà mou d'une
certaine
façon. Ben oui,
c'est ça, encore plus mou. Et les compléments d'oméga 3, par exemple, peuvent être ajoutés à la diète de votre animal dès son plus jeune âge de manière préventive pour garder, par exemple, un beau pelage et aider à prévenir les problèmes d'articulation, les problèmes cardiaques, bien sûr. On est mieux de se tourner vers des produits spécialisés qui sont recommandés par un spécialiste. Bien sûr, je pense que beaucoup de gens improvisent. Il y a tellement de marques maintenant, un peu partout dans des marchés. Hein.
Et comme des frais, il y a des frais aussi qui sont rattachés à ça. Hein?
Ben oui, absolument. Ça peut être très coûteux. Mm-hmm. En termes d'opérations particulièrement, on a déjà parlé de cette chose-là, qui peut être même des milliers de dollars. Donc, soyez également attentifs aux éventuels problèmes dentaires de votre animal en effectuant des détartrages, en brossant régulièrement ses dents. Parce que les bactéries présentes dans la bouche peuvent aller vers la voie sanguine et créer des problèmes chroniques au cerveau et aussi au cœur. Une bonne façon aussi, c'est de jouer avec son animal.
Ah oui?
De faire des jeux, ben oui, pour le tenir actif et continuer à stimuler son cerveau d'une certaine façon. On dit même, par exemple, de cacher de la nourriture, faire un jeu avec lui pour la trouver. Alors, je sais qu'il y a des balles maintenant qui existent dans lesquelles on peut insérer de la nourriture.
Ah oui?
Et il peut arriver à ouvrir cette balle-là, donc être un petit peu inventif. Mais on voit quand même que c'est exactement le même processus que chez l'être humain. D'où l'intérêt, un peu comme on parlait des oiseaux tout à l'heure, l'intérêt des recherches
oui,
pour essayer
absolument.
De découvrir des choses qui seront applicables par la suite à l'être humain. Ah, c'était Stéphanie Vallet qui nous parlait d'aider nos compagnons à vieillir. Et c'était dans la presse du 4 octobre.
vous fais part maintenant d'une chronique de Stephen Guilbeault, La vie en vert. Stephen Guilbeault, qui est écologiste, qui titre un article « Le solaire, un secret bien gardé ». Alors que le débat sur les pipelines et les sables bitumineux fait rage en Amérique du Nord, on parle peu de la petite révolution du solaire qui est en route tant ici qu'ailleurs dans le monde. Qui n'a pas entendu parler du boom du gaz de schiste aux États-Unis? Depuis quelques années, cette énergie alimente environ 50 % de la nouvelle production électrique chez nos voisins du Sud. Mais qui a pris le temps de s'attarder au rôle du solaire aux États-Unis? Selon une étude récente, ce secteur a connu une croissance de 418 % de 2010 à 2014, donc depuis les quatre dernières années. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que le solaire a la cote. À 100 km à peine de Montréal, vers l'ouest, nos voisins ontariens ont amorcé un virage important vers le solaire. Il suffit de prendre la route entre Montréal et Ottawa pour constater que de nombreux nouveaux systèmes ont été installés. Ce véritable boom va permettre la création de plusieurs milliers d'emplois en Ontario dans le solaire. Et quelles sont les projections pour le solaire électrique dans les prochaines années? Les estimations vont de 16 % à plus de la moitié de la production mondiale d'ici 2050. Il est vrai que le solaire représente encore une petite portion du portefeuille énergétique, tant en Amérique du Nord qu'à l'échelle mondiale. Par contre, il est tout aussi vrai que comme les États sont de plus en plus nombreux à mettre en place des mesures visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles, taxes sur le carbone, règles plus strictes sur le charbon, opposition aux projets de pipeline et de sable bitumineux, le solaire aura une place de choix dans le panier de commandes. Alors, c'était dans la revue, non pas dans la revue, mais dans le métro, 20 octobre 2014.
Une petite nouvelle du métro de Tokyo. Il y a plus de raisons de se perdre dans le métro de Tokyo grâce à des cravates 100 % soie du créateur japonais, dont la doublure cache un plan des 179 stations de ce touffu réseau de transport. Des modèles avec plan du métro d'Osaka et de Kyoto sont offerts aussi.
D'écouter Kiosque Magazine.
Alors, nous voici de retour avec un article de Émilie Nocimard, Disparition du jaguar et déséquilibre écologique. Comme quoi le bonheur des uns fait le malheur des autres, souvent. Ça se passe au Brésil, où c'est dans la revue Biodiversité, automne 2014. Au Brésil, la raréfaction du jaguar pourrait entraîner un grand déséquilibre écologique, ainsi que la fin prochaine de la forêt atlantique, l'une des plus grandes sources de biodiversité au monde. Il ne resterait qu'environ 250 jaguars adultes dans la forêt atlantique tropicale brésilienne, la Mata Atlantica, que vous connaissez peut-être, Michel.
Oui.
Oui. Selon une étude publiée en début d'année et menée par le Centre brésilien de recherche et de conservation des mammifères carnivores, le CENAP, il s'agit d'une chute dramatique en moins de 15 ans, de 80 % de la population de cette espèce, donc une chute de 80 %
C'est inquiétant, ça.
Très inquiétant. Et à peine 20 % des jaguars restants, soit une cinquantaine, seraient en âge de maturité sexuelle. Donc, on va avoir tantôt
Il n'en resterait que 5 ans?
Selon, oui, une cinquantaine serait en âge de maturité sexuelle.
En âge de se reproduire.
Exactement. Et on aura tantôt quelques commentaires de Anne-Sophie Bertrand, biologiste, qui étudie justement cette espèce en particulier, le jaguar, dans le parc national d'Iguaçu.
Oh, quel bel endroit!
Ah oui, hein, ça rappelle des beaux souvenirs. Oh. Les scientifiques, donc, sont inquiets, Michel. Au sommet de la chaîne alimentaire, le jaguar est une espèce dont le rôle est primordial pour l'équilibre écosystémique de la forêt atlantique. C'est ce que Mme Anne-Sophie Bertrand mentionne dans ses études. Elle constate qu'en l'absence de leur prédateur principal dans le parc, les populations de tapirs et de pécaris explosent. Sans prédateurs, ces proies de prédilection se multiplient, on s'en doute, induisant d'importants changements écologiques. Avec l'accroissement de ces populations de proies du jaguar, ce qui arrive, c'est la dégradation des sols, voire leur asphyxie qui est inévitable, selon Mme Anne-Sophie Bertrand. La destruction de l'habitat figure en tête de liste des causes principales de la réduction spectaculaire du nombre de jaguars. Le riche écosystème de la forêt atlantique recouvrait jadis 15 % du territoire brésilien, dont, de ce 15 %-là, 93 % est aujourd'hui disparu. Donc, il n'en reste pas beaucoup.
Déforestation
massive, effectivement, au profit des villes en bonne partie ou en partie. La pression des villes qui est trop forte, surtout ici dans la région sud-est de la Mata Atlantica, où vivent tellement de personnes. Les fragments forestiers ne suffisent pas pour sauver de nombreux mammifères d'une extinction locale, comme les jaguars. En 1999, un archipel forestier de 470 hectares, réparti dans 25 aires protégées de la région sud-est brésilienne, a été classé patrimoine de la biosphère par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Il semble aujourd'hui aussi menacé. Et même constat alarmant du côté du Paraguay, où 80 % de la région orientale du pays, donc est du pays, était recouverte originairement par la forêt atlantique, alors qu'aujourd'hui, il n'en reste que 13 %. Dramatique diminution. Et c'est Margarita Mieres, qui est responsable du programme de conservation de la Mata Atlantica à WWF Paraguay, qui est un organisme cinquantenaire qui œuvre dans différents pays pour la conservation de la planète. C'est le constat que ces gens-là font.
On avait l'habitude de dire que la forêt brésilienne, c'est le poumon de la Terre.
Hein? Exactement.
Le poumon commence à être...
Un peu pas mal asphyxié.
Oh, asphyxié, c'est
oui.
ça. Oui.
Dans ce pays frontalier du Brésil, donc au Paraguay, les terratenientes, grands propriétaires terriens, et les soyeros, les producteurs de soya, mènent la vie dure à la nature. Les jaguars en payent le prix et disparaissent en même temps que la forêt. Pour couronner le tout, la chasse et l'abattage des jaguars au Brésil, en Argentine et au Paraguay sont choses courantes. Tous les intervenants rencontrés s'entendent pour dire que des agriculteurs n'hésitent pas à tuer un jaguar qui a mangé une de leurs vaches. De plus, le trophy hunting, ou la chasse aux trophées, est encore très populaire et la peau du jaguar est vendue très cher sur le marché. Et donc, c'est Anne-Sophie Bertrand qui nous explique tout ça. Et il se heurte donc, ses protecteurs, à la présence de chasseurs illégaux, notamment dans le parc national d'Iguaçu. Les forêts côtières et intérieures de l'Atlantique font partie des plus riches forêts tropicales. Vous parliez de poumons de la Terre. Tantôt, Michel, c'en est un bon exemple. Donc, font partie des plus riches forêts tropicales humides de la planète. Elles hébergent des collections uniques d'espèces bien distinctes de celles de l'Amazonie. Mais pour combien de temps encore? C'est de cette façon que Émilie Nocimar clôture son article. Émilie, qui est journaliste indépendante et qui, cette fois-ci, écrivait pour le magazine Biodiversité automne 2014, titré « Disparition du jaguar et déséquilibre écologique ».
Jolie musique de transition, hein?
Oui.
Très jolie.
Et ça fait un petit peu forêt brésilienne, je trouve.
j'avais découvert ce groupe-là au Festival de jazz il y a quelques années.
Ah, et qui s'appelle? Bonne question, je pense que Kamal va nous dire ça.
Cuadro Nuevo.
Oh!
C'est ça. Qui joue de toutes sortes d'instruments. Ils sont trois ou quatre, je pense. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai perdu de vue. Mm-hmm. Mais c'est toujours fort agréable. Bon. Sur ces paroles musicales, on dirige vers Nantes. C'est Philippine de Tinguy qui nous en parle dans la presse du 4 octobre. Nantes a été élue capitale verte de l'Europe en 2013. Et ça, c'est une ville qui a beaucoup à offrir, même si c'est juste le temps d'un week-end, par exemple. Si les quelques 50 kilomètres qui la séparent de l'océan Atlantique ont contribué à son développement, largement, son développement économique, se hisse aujourd'hui parmi les cités les plus dynamiques de l'Hexagone. C'est la ville, en passant, c'est la ville de Jules Verne. Il est né à Nantes. Il a vécu à Nantes aussi. C'est impossible de ne pas tomber nez à nez avec un cours d'eau. La ville a longtemps été surnommée la Venise de l'Ouest, titre que je déteste, parce qu'on a des Venises un peu partout, Bangkok, la Venise de l'Asie.
On a même Venise en Québec.
Aucune comparaison, mais on l'a appelée la Venise de l'Ouest. Bon, c'est tout simplement parce qu'elle bat au rythme de la Loire, la Sèvre, et de l'Erdre aussi. Flânons d'une rive à l'autre au gré des quelques ponts qu'on peut croiser. L'un d'eux nous mène dans l'île de Versailles, là où on trouve un jardin japonais, un vrai petit coin de paradis. Et on peut embarquer sur le bateau Lavoire. C'est l'endroit parfait pour déguster les huîtres du marché, accompagnées d'un verre de muscadet, bien sûr, et une bonne part de gâteau nantais à l'arôme d'amande, de rhum entière.
Ah, vous me donnez faim, Michel!
On est encore à l'heure du déjeuner. Et ça se transforme certains soirs, le bateau Lavoire se transforme en bistrot-concert. Nantes ne fait plus officiellement partie de la Bretagne, mais la ville a longtemps été le chef-lieu, comme en témoignent certains vestiges médiévaux comme encore visibles dans le quartier historique du centre-ville. On peut donc tout aussi bien tomber sur des maisons à colombages et des hôtels particuliers que sur d'autres joyaux architecturaux, comme des immeubles de style haussmannien, baron Haussmann, et de la rue de Strasbourg, la colonne Louis XVI de la place Maréchal-Foch aussi. On se dirige vers le château des Ducs de Bretagne, qui habite également le musée d'histoire de Nantes. Et on va se laisser tenter par le circuit organisé sur les remparts. C'est toujours fort intéressant. Faire ça tôt le matin, c'est magnifique. Saint-Malo aussi, ces endroits-là.
J'imagine la vue quand on est sur les remparts
C'est merveilleux de voir ça. Je l'ai fait le matin, c'est très beau. En face du château s'élève une autre tour emblématique, c'est celle de la biscuiterie Lu.
Ah!
Pour Lefèvre utile. C'est connu dans le monde entier grâce à des petits gâteaux du même nom. Ça a été reconverti en centre culturel. L'ancienne usine accueille aujourd'hui un restaurant, une librairie, des salles d'exposition, de spectacles, une boutique, plein de choses. Mais surtout, on s'y retrouve pour boire un verre le long du canal, installé sur des chaises longues. Une belle petite matinée, hein? Ça nous fait rêver pendant que chez nous il pleut. À quelques minutes de marche, toujours dans la partie historique du centre-ville, l'effervescence commence à se faire sentir dans le quartier Bouffé. C'est bien comme nom, hein? Mais ça s'écrit F-F-A-Y, quartier Bouffé. Les terrasses sont pleines de monde. À l'ouest du quartier Bouffé, une autre partie du centre-ville témoigne du patrimoine architectural de Nantes. Pour la plupart reconstruites après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des places Grasselin, Royal, place de la Bourse, place du commerce, des lieux de rendez-vous absolument incontournables. On continue notre balade en longeant la Loire, qui a permis à Nantes de se développer, notamment à l'époque du commerce triangulaire au cours du 18e siècle. On passe par le quai de la Fosse, qui garde des traces de l'activité portuaire ou des hôtels particuliers des riches armateurs côtoient des bars mal famés aussi et les maisons closes. On est surtout frappé par des édifices qui sont penchés. Et ça, c'est à cause des sols marécageux sur lesquels ils ont été érigés. Donc, il n'y a pas seulement la tour de Pise, hein? Il y en a à plusieurs endroits de tels édifices qui sont toujours charmants à voir, hein, de voir des édifices qui penchent. Surtout les édifices à colombage, parce qu'on peut très, très bien voir la pente.
Oui, on la voit mieux. Hein?
Oui. On va arrêter au mémorial de l'abolition de l'esclavage, né de la volonté des Nantais, pour se souvenir de la traite négrière. On a aussi, qui surplombe la Loire, la butte Sainte-Anne. C'était le lieu de vie des ouvriers des chantiers et on se promène à la recherche de la fresque des Acadiens qui, pour certains, ont élu domicile dans le quartier, ainsi que, bien sûr, des statues de Jules Verne, enfant, et de son héros.
Je présume que quand vous parlez des Acadiens, vous ne parlez pas des Acadiens d'ici, là. A-K-A-D-I-N?
Non, c'est Acadien, il semblerait.
Ah.
Oui. Mais je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche pour connaître le rapport entre les deux.
Okay.
Et on se rend ensuite au musée Jules Verne, qui est écrivain, on le sait, à l'imagination débordante, dont les romans ont inspiré, sont inspirés plutôt de l'histoire maritime de Nantes, où il est né, j'ai mentionné, il a grandi aussi. Et pour mieux comprendre l'univers de Jules Verne, il faut se rendre dans l'île de Nantes. C'est au-delà des projets d'urbanisation, ce sont surtout des machines de l'île qui attirent aussi bien les Nantais que les touristes. On plonge de tête première dans l'imaginaire de l'auteur de 20 000 lieues sous les mers, en embarquant sur l'un des monstres mécaniques, des carousels du monde marin. Et on rendons ensuite vers les nefs, les espaces d'exposition. Un endroit, pour finir, assez étrange, ça s'appelle le hangar à bananes. Il est réhabilité en lieu de vie et de loisirs et consacré à la culture et à l'art. Il y a le quai des Antilles, des anneaux de Buren, les grues de Titan, les cantines de voyage. En tout cas, des noms évocateurs pour un endroit
Mais oui, tout à fait extraordinaire.
Où Jules Verne est né. Alors, c'est un petit tour d'horizon rapide de la ville de Nantes qui nous était proposé par Philippine de Tinguy dans la presse du 4 octobre.
Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a thank you.
Alors, c'était le groupe Beyrouth et devinez le titre?
Nantes!
Nantes, voilà!
Alors, on se retrouve maintenant avec le magazine qui s'appelle Quatre saisons, qui est publié entre autres par le, non pas entre autres, mais par le Jardin botanique de Montréal, où il y a un article de Maxime Bergeron-Laurencel intitulé « Vaste projet d'horticulture sociale à Montréal ». C'est un article qui se retrouvait dans l'édition de printemps 2014 et j'ai trouvé ça assez surprenant comme article et très, très bienvenu. Maxime Bergeron-Laurencel, qui est initiateur du projet intitulé « S'entraider pour faire pousser la communauté ». On parle de Montréal. Alors, comment un centre de santé et de services sociaux, qu'on appelle aussi C3S, peut-il lutter contre l'insécurité alimentaire et contribuer au développement durable? Voilà une question que la direction générale du C3S, Lucille Tisdale, dans l'est de Montréal, s'est posée il y a déjà 2 ans, à l'automne 2012. Il en est ressorti que dans plusieurs zones du territoire desservies par le C3S, ce C3S en particulier, la population souffre d'un accès limité à une saine alimentation, par exemple éloignement des épiceries, faible diversité des aliments, etc. Par ailleurs, pour les résidents des centres d'hébergement, où il y a 7 centres d'hébergement dans ce secteur, un environnement vert semble garant d'un bien-être plus grand, donc bien-être plus grand pour nos aînés. Devant ces deux constats, nous avons convenu de mettre en place une stratégie de verdissement, incluant la création de potagers urbains. L'objectif était de créer des lieux aménagés, accessibles aux résidents et à leurs familles, mais aussi de faire profiter la communauté limitrophe des récoltes faites dans nos potagers. Ainsi, les potagers fourniront des denrées fraîches et gratuites de juin à octobre aux organismes communautaires œuvrant à contrer l'insécurité alimentaire. En échange de cette production, le C3S Lucille Tisdale demande aux partenaires de le soutenir dans la réalisation des différents projets, une stratégie à laquelle une dizaine d'organismes ont adhéré l'année dernière au printemps 2013. Nous avons alors constitué, c'est toujours le C3S qui parle, un comité de travail et de réflexion composé de personnes à l'interne et de partenaires à l'externe. Nous avons fait appel donc aux amis du Jardin botanique de Montréal, à l'École des métiers de l'horticulture de Montréal toujours, à la Ville de Montréal, à la Société de développement écologique de Rosemont, à la Corporation de développement communautaire de Rosemont, à l'organisme Les Pousses urbaines, à Sentier urbain, à Il y a quelqu'un l'autre bord du mur, c'est le nom d'un organisme.
Ah, c'est joli.
Et à la Société de verdissement du Montréal métropolitain, le Sauverdi. Avant que nos partenaires investissent les lieux, nous avons rencontré différents acteurs de nos installations. Dans la mesure où les réponses au projet étaient positives, nous avons ensuite discuté de leur vision des aménagements pour que les résidents soient partie prenante du projet. L'accueil a été des plus favorables dans les 4 installations visitées au moment d'écrire ces lignes, donc au printemps dernier. Dès l'été 2013, pardon, de nouveaux aménagements y ont pris forme, notamment au CHSLD J. Henri Charbonneau, par exemple. Une 12aine de potagers en bac ont été entretenus par une 10aine de résidents pendant l'été. Des cultures potagères en bac ou en chaudière ont aussi été implantées dans 2 autres installations et le CHSLD Marie-Relais a accueilli une 15aine d'arbres sur son immense terrain et ce n'est là qu'un début. Les défis qu'il nous reste à relever sont importants. Il faut notamment recruter les bénévoles et trouver les ressources financières nécessaires pour mettre en chantier des aménagements sur les autres sites du C3S. Et ils sont à la recherche de bénévoles, bien sûr, comme bien d'autres organismes. Selon nous, un C3S peut être un acteur de changement, en participant à la mobilisation des partenaires du milieu, afin que chacun de ceux-ci contribue à améliorer la qualité de vie de la population. Seul, on va plus vite, mais ensemble, diront-ils, on va plus loin. Voilà la vision que nous entendons mettre de l'avant. Alors, je vous mentionne les objectifs pour les prochains mois, qui sont de dresser des plans d'aménagement pour l'ensemble des sites, de ménager et d'entretenir les sites, de délimiter des zones saines et d'y créer des potagers de superficie adéquate pour obtenir une production maraîchère importante. Donc, on parle encore d'agriculture urbaine, mais implantée dans un C3S. L'objectif, figurez-vous, 1 tonne de fruits et légumes par année.
Ah, c'est bien.
Fantastique. Alors, il y a déjà des fermes écologiques, des fermes urbaines qui sont installées, mais cette fois-ci dans un autre contexte. Un autre objectif, de solliciter des ressources humaines et bénévoles pour accompagner les résidents dans leur participation au projet. Il faudra probablement environ une trentaine de bénévoles pendant l'été. Et enfin, de travailler avec les organismes du milieu pour assurer une distribution régulière de la production. Donc, un bel exemple de collaboration entre le milieu institutionnel, le milieu public et le milieu communautaire. Donc, c'était un article de Maxime Bergeron-Laurentiel, qui est chef de l'administration de programme, organisation communautaire et coordination du bénévolat du C3S Lucille Tisdale. C'était dans la revue 4 saisons.
Tu peux, nous rappeler qu'est-ce que c'est, C3S?
Ah, c'est le Centre de santé et services sociaux.
Okay,
il y en a plusieurs.
Okay.
Donc, un regroupement de ressources de santé. Donc, c'était vaste projet d'horticulture sociale à Montréal, 4 saisons, printemps 2014.
Bon, on parle de voyage beaucoup ici, mais il faut savoir éviter les restaurants qui sont des attrapes touristes. Hein. On voit, par exemple, les meilleurs gnocchis de Rome. On peut dire ça sur une enseigne dans la capitale italienne à Rome. Et pourtant, ce mets-là n'est pas romain. Ça vient d'une autre région. Et que dire aussi des burritos qu'on peut retrouver sur la carte d'un restaurant au Mexique, alors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des plats mexicains, mais pas du tout. Et... force est de constater que dénicher des endroits où l'on peut manger de la nourriture locale en voyage peut parfois s'avérer difficile devant l'abondance d'établissements qui ont tendance à internationaliser leur menu. Comment éviter de s'établir dans les attrapes touristes? Ben, peut-être quelques trucs ici. D'abord, consulter les quelques guides de voyage avant de boucler sa valise. Et quand on voit qu'un resto revient dans tous les guides, ça peut être bon signe. Des guides fiables.
Guides fiables, oui.
Et non pas la publicité. Faire confiance à ses amis aussi. Si je m'en vais à Rome, j'ai des gens qui y ont été, ils peuvent me donner des références intéressantes. Les réseaux sociaux, parfois aussi, même s'ils ne sont pas toujours peut-être très fiables. Se perdre dans les rues d'une ville ou d'un quartier, découvrir des endroits cachés. Je pense à Venise, par exemple. Il y a pas seulement la place Saint-Marc à Venise. Il y a des petites ruelles à l'arrière qui sont fort intéressantes et ça permet de faire de belles découvertes. Et éviter les établissements situés à côté de la Tour Eiffel, à proximité du Colisée de Rome, par exemple. Je me rappelle d'avoir payé une crème glacée à l'époque, quelque chose comme 8 euros à côté du Colisée de Rome. Et c'est mieux de s'enfoncer dans des quartiers. Aussi, s'intéresser aux gens que l'on croise sur sa route. Si vous aimez parler avec les gens de la place, ça peut être anodin. Et vous savez qu'il y a particulièrement, je pense, à l'Angleterre, où vous demandez votre chemin et on va vous indiquer les restaurants, les pubs, et on va vous dire exactement les endroits.
Quasiment des guides touristiques.
Absolument. C'est très intéressant. Aussi discuter avec peut-être votre chauffeur de taxi en Asie, conducteur de pousse-pousse parfois, et éviter surtout de demander conseil aux gens de l'hôtel où vous logez. Et ça, ceux-ci envoient trop souvent les voyageurs dans les restaurants où on sert un menu international ou le restaurant de leur cousin ou de leur beau-frère.
C'est peut-être moins typique à ce moment-là.
Qui n'est pas toujours l'idéal. Donc, quelques moyens de se perdre un peu dans les dédales d'une ville pour trouver des restaurants intéressants qui ne sont pas des attrapes touristes.
Alors, c'était Kiosque Magazine aujourd'hui. Alors, Michel Audet, merci beaucoup. C'était Anne Chiasson au micro.
Grand plaisir.
Alors, écoutez, c'est en reprise, notre émission est en reprise à 13h et à 21h sur canalm.org. Mise en onde des choix musicaux, merci beaucoup, Kamal Salifou. Bonne journée tout le monde.
Bonne journée, au revoir.